RTL, élection.
19h05, l'heure pour nous de rejoindre Fabio Payot au restaurant Le Desperado à Neuchâtel pour cette dernière soirée de débat.
Oui, bonsoir et bienvenue au restaurant Le Desperado à Neuchâtel pour ce débat public. Débat public en vue de l'élection au Conseil d'État neuchâtelois. C'est le dernier d'une série de 4 débats que RTL a organisé durant toute la semaine, des débats décentralisés publics. Les 4 candidats, je vous les propose de vous les présenter tout de suite. On commence par le libéral radical Philippe Gnegui. Vous êtes âgé de 51 ans, Philippe Gnegui, vous êtes l'actuel président du Conseil d'État. Bonsoir.
Bonsoir.
L'UDC-UD Yvon Perrin, vous avez 46 ans, vous êtes conseiller national, bonsoir.
Bonsoir.
Le démocrate chrétien Vincent Martinez, 46 ans, conseiller général à Val-de-Ruz, bonsoir.
Bonsoir.
Et le popiste Nago Humbert, 62 ans, qui représente la liste de la gauche plurielle et qui est novice en politique, on peut le dire. Bonsoir Nago.
Bonsoir Fabio.
Voilà, avant d'attaquer le débat proprement dit, j'aimerais que l'on revienne sur la décision du Conseil d'État de reporter l'élection du gouvernement au 28 avril et de maintenir en fait l'élection du Grand Conseil au 14 avril. Cette décision annoncée hier a provoqué un début de bataille juridique. L'UDC s'est profilé, l'UDC que nous avons eu ce matin, Yvan Perrin en l'occurrence, qui nous annonçait un recours contre cette décision, du moment que la simultanéité des deux scrutins n'était pas respectée. Mais sauf erreur, il y a eu un nouveau rebondissement. Aujourd'hui, Philippe Gnegui et le Conseil d'État a mis de l'eau dans son vin, si l'on peut dire. Il a pris peur qu'on reparle en mal du canton de Neuchâtel.
Non, je ne crois pas du tout. D'abord, nous sommes devant un drame humain. Et je tiens aussi à présenter mes sincères condoléances à la famille du docteur Traubé. Je crois que c'est essentiel d'abord de le dire. Et le Conseil d'État, ensuite, par rapport à cette situation tragique, a dû prendre des mesures. La loi sur les droits politiques nous oblige à reporter l'élection au Conseil d'État. C'est l'article 75 de cette loi sur les droits politiques qui fait que l'élection pour le Conseil d'État aura lieu non pas le 14 avril, mais le 28 avril. C'est une disposition légale que nous devons appliquer. Et la question se posait ensuite par rapport au Parlement. Nous ne pouvons pas naturellement invalider le vote du Parlement, mais ce que nous avons décidé, c'est que le dépouillement du Parlement et du Conseil d'État aurait lieu ensemble le 28 avril.
Ça signifie des scellés sur les urnes qui concernent l'élection du Grand Conseil 14 jours avant celle du Conseil d'État.
Alors cela signifie que nous allons émettre des directives à partir de lundi, voire mardi, que les informations seront données clairement aux différentes communes.
Avant d'entendre la réaction d'Yvan Perrin, qui représente la voix de l'UDC, par rapport au recours qui était annoncé, vous avez averti les groupes du Grand Conseil, vous aviez une séance tout à l'heure. Quel a été l'accueil de cette décision?
Je sors en fait d'une séance du bureau du Grand Conseil, où nous avons informé le bureau du Grand Conseil de cette situation, et j'espère que cela rétablira aussi un certain calme dans le canton de Neuchâtel.
Yvan Perrin, cette solution vous satisfait? Vous allez retirer votre recours?
Alors, pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Nous n'en avons pas encore parlé. Il faut déterminer quels sont les contours complets de cette décision. C'est quelque chose avec laquelle, personnellement, je peux vivre, mais c'est un peu tôt pour avoir une réponse péremptoire.
Parce que pour être très clair, ce matin, votre chef de campagne n'était pas tout à fait du même avis que vous. On sent que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
Alors, nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde. Nous voulons respecter l'article 67 de la Constitution qui prévoit que le Grand Conseil et le Conseil d'État sont élus en même temps.
Alors, si on veut chercher encore la petite bête, Philippe Gnegui, il y a encore d'autres articles, notamment dans la loi des droits politiques, d'autres articles qui disent qu'il faut dépouiller immédiatement après le scrutin.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le service juridique. La solution qui est proposée ce soir tient la route juridiquement. Mais je répète, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a aussi un drame humain. Et je pense que c'est bon de le rappeler.
Alors à propos de drame humain, Vincent Martinez, le PDC a fait la demande au Conseil d'État pour maintenir les dates telles qu'elles étaient établies en mémoire, finalement, du défunt. Le Conseil d'État n'est pas entré en matière. Vous êtes, j'imagine, déçu.
Très déçu. C'est vrai que j'ai passé le dernier soir de la vie de Raymond ensemble avec lui lors de votre débat à Fenin. Vous avez aussi vu l'énergie qu'a mis Raymond lors de ce débat. Monsieur Traube avait mis toute l'énergie, il avait fini sa campagne, il avait encore allé serrer des mains et tout. Et par respect, nous souhaitions vraiment que le 14, ça se finisse. Je dirais vraiment pour lui et sa famille.
Nago Humbert, j'ai cru comprendre que pour vous, ce n'était pas très important.
Le décès de Raymond est extrêmement important.
Du décès, on est bien d'accord.
Je voulais juste dire un mot parce que c'est un collègue que je connais depuis 30 ans. On était à l'hôpital des Cadoles ensemble il y a 30 ans, donc je connais Raymond depuis très longtemps. Ça m'avait fait plaisir de le retrouver sur une scène politique. Et donc, effectivement, mes pensées vont d'abord à ses enfants et à son épouse. Pour, en ce qui concerne la décision qu'on aurait pu prendre ou notre avis, au-delà du drame, on a trouvé ça intéressant, le fait que, pourquoi pas, le Parlement pourrait être élu avant le gouvernement. Le Parlement, c'est où se fait la politique. On l'oublie trop souvent, parce qu'on pipolise beaucoup, c'est surtout les candidats au Conseil d'État qui sont devant, mais c'est d'abord les députés qui font la politique dans ce canton. Et je trouverais intéressant que le Parlement soit élu d'abord, c'est-à-dire la population donne son avis sur la politique, la gauche, la droite, une majorité de gauche, de droite, puis ensuite on élirait un gouvernement qui soit en adéquation avec la majorité, ou qui soit, à la limite, un contre-pouvoir, comme on pourrait dire là-dessus. Donc pour nous, il n'y avait aucun problème.
Peut-être une question encore individuelle qui concerne la campagne, parce que la campagne, elle va se prolonger automatiquement, 15 jours de plus. On vous sent tous très fatigués, est-ce que je me trompe? Yvan Perrin, par exemple.
Ben, effectivement, on espérait quand même que ça se termine le 14. On avait à peu près tous prévu quand même un deuxième tour jusqu'au 5 mai, donc on se tenait prêt à aller plus loin. Il faudra maintenant aller jusqu'au 19, et c'est vrai que les débats, les sollicitations ici ou là, ça vient fatigant, oui.
Philippe Légui, les pressions difficiles à supporter, le oui. prolongement de cette période.
Les pressions, on les a, nous, au Conseil d'État, depuis 4 ans. C'est une situation qui est, c'est vrai, qui est difficile, mais la pression, elle existe continuellement. Et voilà, je crois qu'il faut aussi vivre et accepter ce qui se passe et s'adapter à la situation tragique.
Nago Humbert, vous m'avez dit ce matin au téléphone, vous étiez très fatigué.
Non, mais je suis fatigué de répéter la même chose, surtout et de ne pas être entendu. Mais il y a aussi, on n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau financier. Nous, on a épuisé notre budget et on ne va pas commencer à remettre des avis supplémentaires dans les journaux et à prolonger, effectivement. Donc, il y a une inégalité aussi pour les petits partis.
Ça signifie que vous devriez être encore plus présent sur le terrain, par exemple, et votre campagne, l'organiser vous-même sans moyens financiers, aller près de la population.
Mais c'est ce qu'on va faire et ce qu'on fait depuis plus d'un mois et c'est ce qu'on va intensifier.
Vincent Martinez.
Oui, alors nous, on va évidemment continuer la campagne avec mon colistier Marc Eichenberger. Le problème que je vois, c'est que si on pouvait profiter de ces 15 prochains jours, enfin à partir du 14, pour avoir des vrais débats et pas trop insipides, parce que le problème que je vois, moi, lors de cette campagne, c'est qu'on est en train d'entendre des gens qui sont déjà en train de se préparer à travailler ensemble. Hein? Donc ils sont en train de se dire, ok, je vais peut-être être collègue, pas être collègue, donc on a mieux le temps de pas trop se rentrer dans le cadre.
Vous me passez la perche, en fait, je vais la saisir. Je vous propose maintenant d'attaquer le débat avec l'idée d'un projet rassembleur, hein, projet attractif pour le canton. Tout le monde est d'accord, vous venez de le signaler, il faut rassembler pour avancer, tout le monde semble du même bord, n'est-ce pas, à gauche, à droite, éviter les dissensions telles qu'on les a connues durant la législature passée. Il faut sortir de cette mauvaise image qu'on a donnée un peu partout en Suisse. Alors, il y a un projet rassembleur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'imagine que oui, le Swiss Watch Arena, dont on a beaucoup parlé, un projet gigantesque, qui pourrait permettre, par exemple, et notamment, de mettre en valeur le savoir-faire horloger de notre région, qui n'est pas des moindres. Philippe Négui, quelle est la position du canton par rapport à ce projet? On vous a senti très timide, le Conseil d'État, avec en appui, on va dire, c'est une interprétation personnelle, du conseiller d'État en charge de l'économie, Thierry Grosjean, qui dit oui, on va le soutenir, mais finalement, on n'a entendu aucune voix de la part du canton, en sachant que c'est un projet entièrement privé.
Vous l'entendez maintenant, donc c'est un magnifique projet, et je pense que tout projet qui est rassembleur doit être soutenu. Maintenant, la question, et si c'était, je veux dire, la seule question dont on doit débattre, c'est la localisation, mais sur le projet lui-même, c'est un projet qui fait rêver, et moi, j'invite en fait tous les citoyennes, tous les citoyens à créer, à innover. Et c'est ce dont on a besoin, c'est aussi de rêves dans le canton de Neuchâtel et de gens qui sont créatifs. Et la culture participe aussi à ce mouvement créatif, ce projet participe aussi à ce mouvement créatif. On vient d'innover d'ailleurs le pôle horloger au Locle. Donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de ressources et il faut naturellement soutenir ce type de projet. Puis après, il y a des discussions entre le canton, la commune et les privés.
Des discussions ont déjà eu lieu entre le canton et les initiateurs.
Oui, elles ont lieu et elles continueront d'avoir lieu. Maintenant, la problématique, c'est la localisation du projet, mais je crois qu'il faut aller, il faut soutenir de telles initiatives. Moi, je crois que allons de l'avant et je le dis toujours, on a un magnifique canton et il faut être créatif dans ça.
Voilà. Vincent Martinez, je vous vois un peu froncer les sourcils. Ce gigantisme vous fait peur pour un petit canton comme Neuchâtel?
Ce qui m'a inquiété dans l'histoire, c'est qu'on parlait d'engagement privé à hauteur de 350 millions de francs et finalement, il n'y avait pas un franc. Hein. Donc, pour le moment, on n'a rien vu d'argent qui permettait de le faire.
Donc, il y a plein de promesses, en tout cas.
Oui, moi, finalement, les promesses, on les connaît. On est, semble-t-il, des politiciens. Donc, on est censé faire beaucoup de promesses, ce que j'espère pas trop faire non plus. Mais résultat, on nous dit 350 millions. L'industrie horlogère, c'est clairement dit qu'ils n'allaient pas avancer un sou pour le moment. Ils parlaient de la Fondation Sando non plus. Le projet, en tant que tel, pourquoi pas? Je le voyais bien à Neuchâtel, si on parle que du projet, pas du financement, étant donné qu'on n'a pas de centre de congrès, par exemple, à Neuchâtel, ce qui serait une bonne chose.
Alors, effectivement, le projet comprend notamment une salle de congrès, un hôtel de luxe, tout le tralala, hein, Nagouambert. Ça vous fait peur, vous, ce gigantisme?
Oui, si c'est pas M. Chagaïev qui le finance. Allez, disons qu'on a quand même eu... On a été chaudés avec les grands projets magnifiques et le clinquant. Alors moi je suis pour rassembler sur des rêves, moi c'est l'homme qui m'intéresse, donc si on parle, on va parler de baisser le chômage et d'augmenter les formations et d'avoir un système de santé qui fonctionne, pour moi ça c'est un rêve. Et puis effectivement je suis sur la position, pour moi l'horlogerie c'est un peu à la Chaux-de-Fonds, c'est encore une fois dans le bas du canton qu'on le prévoit.
Alors justement il y a le musée international d'horlogerie qui risquerait de passer aux oubliettes si le projet voyait le jour, Yvan Perrin.
Alors, personnellement, étant natif de la Côte aux Fées, ayant littéralement grandi sous les montres, tout ce qui relève du patrimoine horloger ne peut que me faire rêver. La question, effectivement, se pose de savoir à quel endroit on peut installer ce projet. À présent, on parle d'un projet rassembleur. Je ne suis pas sûr du tout qu'une infrastructure de ce genre arrive réellement à gommer l'antagonisme historique qu'il y a entre le haut et le bas. J'ai l'impression qu'il faudra plus que ça.
On revient au lieu où pourrait être érigé ce bâtiment, mais au-delà du côté rassembleur, il y a le côté attractif, ça pourrait attirer du monde. En fait, on identifierait Neuchâtel à ce bâtiment, à cette Suisse Watch Arena.
C'est évidemment quelque chose qui serait très intéressant de mettre en avant ce patrimoine horloger. J'ai l'impression, et c'est dommage, que les Neuchâtelans ont parfois peu conscience de leurs propres atouts, notamment en matière horlogère. On a les microtechniques aussi, on est reconnu non seulement au niveau suisse, mais au niveau mondial. Nos produits agricoles reçoivent des distinctions jusqu'aux États-Unis. Et les seuls qui en sont peu, voire pas conscients du tout, ce sont les Neuchâtelans eux-mêmes. Et peut-être que ce projet permettrait de rendre une certaine fierté à ce canton.
Alors des atouts, on en a également au niveau des écoles, les hautes écoles, l'université, pour les filières professionnelles, le CPLN, le CIFOM, le CPMB, bref, le canton de Neuchâtel a des atouts dans le domaine de l'information. Quand on parle formation, il faut prendre au bas de la pyramide, je pense, avec déjà la scolarité, le système ARMOS qui a été mis en place, vaste chantier, Philippe Gnegui. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites un peu dans le désordre. Finalement, les gens ne sont pas très contents, les enseignants râlent, manifestent. Du côté des personnes qui s'occupent, des gens qui sont un peu sur la route, victimes de handicapés, de handicap, il y a des problèmes également d'accompagnement. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ça ne satisfait personne. Je résume. Hein.
Oui, vous résumez à votre manière. Moi, d'abord, je les félicite, surtout les enseignants, parce que je pense qu'ils exercent un métier qui n'est pas facile, qui devient de plus en plus difficile. Et je commencerai par là, en disant, c'est vrai qu'il y a eu passablement de réformes. Et c'est vrai que certains ne se retrouvent peut-être pas dans ces réformes. Mais je pense que le chemin qui a été fait au niveau de l'école obligatoire et post-obligatoire, il est juste gigantesque dans ces quatre années. Vous avez parlé d'Armos, on peut parler des filières bilingues français-allemand pour les jeunes des 4 ans. On en est à 350 jeunes qui fréquentent ces filières. On vient de créer 200 places, nouvelles places d'apprentissage. On a une université qui fonctionne très très bien. On a une HEAR également qui vient de se construire sur le plateau de la gare. On a l'EPFL qui va venir en 2013 ici à Neuchâtel, qui a déjà créé 10 chaires. Donc il y a des projets qui sont extraordinaires. On a un potentiel au niveau de la formation, je le répète, hein, qui est vraiment magnifique. Mais tout cela repose sur des forces vives, et je crois qu'il faut mettre en avant ceux qui font ce travail, et ce sont les enseignants, et les encourager aussi dans leur métier. Moi, je le fais.
Vous savez, voilà, encourager les enseignants, il faut déjà leur donner des salaires équivalents, notamment pour les cycles qui sont inférieurs. Il y a des différences qui doivent être gommées.
Alors, vous avez tout à fait raison, M. Payot. Donc, moi, toutes les mesures que j'ai écrites, hein, on vous parlait de politiciens, moi, toutes les mesures que j'ai écrites en 2009 dans le programme de législature, vous pouvez le vérifier, toutes ont été réalisées, toutes. Il n'y en a pas une qui n'a pas été réalisée, il y en a même d'autres qui ont été réalisées. Et les parents pauvres aujourd'hui de l'enseignement, ce sont les maîtres des cycles 1 et 2, donc pour les petits-enfants. Et clairement, je le dis aussi, et ce n'est pas une promesse, parce que tout ce que j'ai dit, je l'ai réalisé, ces enseignants doivent avoir un salaire qui est revalorisé, parce que ce sont les parents pauvres de l'enseignement. Et il y a une catégorie aussi qui est parents pauvres dans l'enseignement, ce sont les maîtres de la section pré-professionnelle, aussi dont les salaires doivent être valorisés. Mais ce qui manque aussi, juste encore une chose, ce qui manque peut-être au niveau des enseignants aujourd'hui, c'est la reconnaissance qu'on doit leur accorder au niveau de la société par rapport à un travail qui est difficile et qui devient de plus en plus difficile.
Voilà, beaucoup de choses ont été faites, on l'a compris, pas forcément en satisfaction tout le monde. Vous avez tenu vos promesses, mais peut-être avec des moyens qui n'étaient pas ceux qu'on attendait. On vous reproche notamment d'avoir trop coupé dans l'instruction publique, Vincent Martinez, Nago Ambert.
Alors moi, je veux plutôt mettre l'accent sur l'enseignement spécialisé. Hein, parce que ça, c'est aussi un des parents pauvres du canton de Neuchâtel, c'est tout ce qui touche au monde du handicap. Et notamment, quand je parle de l'enseignement spécialisé, c'est qu'on se retrouve, quand on parle que les enseignants pré-professionnels et autres ont des conditions difficiles, les éducateurs enseignants qui travaillent à la Fondation des Pères Neiges, par exemple, sont encore à 47 heures par semaine et gagnent 1000 francs de moins que leurs collègues de l'école ordinaire. Donc, je veux dire, là, on a aussi un déficit qui est assez conséquent à prendre. Et une subtilité neuchâteloise, on va t'en dire, mais qui va s'améliorer avec le concours qui a été signé sur l'enseignement spécialisé, c'est que l'enfant en situation de handicap, il n'a pas droit à une scolarité de base. C'est-à-dire qu'un enfant ordinaire arrive dans un village, il faut ouvrir une classe parce qu'on arrive à un chiffre, hop, on ouvre la classe. Pour les enfants en situation de handicap, ce n'est pas le cas. Et là, j'aimerais bien, quand on parle d'enseignement spécialisé, qu'on n'oublie jamais ces personnes-là.
L'objectif, c'est quand même d'intégrer les personnes en situation de handicap dans des classes normales, mais il manque en fait du monde et d'encadrement.
Alors, oui, mais on doit toujours parler d'intégration bienveillante, parce qu'il y a certains types de handicap, les intégrer, ce n'est pas une bonne idée. Et je vous rejoins complètement, mais là, il y a un match qui se joue au niveau des cercles scolaires et de l'école ordinaire qui est assez extraordinaire, c'est que nous cherchons des classes, quand je parle des Pères Neiges, cherchons des classes pour intégrer les enfants. Résultat des courses, généralement, on ne nous en donne pas. Et si on nous en prête, on nous les loue à des prix extraordinaires. Le seul district, la seule commune qui a joué le jeu, c'est le Val de Travers. Il nous a mis à disposition une classe gratuitement.
Voilà. Yvan Perrin, la réforme des filières avec un durcissement, je crois qu'on peut le dire, Philippe Négui, de l'accès aux études académiques et plutôt privilégier la piste de l'apprentissage. C'est une piste intéressante.
Alors, je pense, oui, que nous devons constater une inadéquation entre la formation et les besoins de l'économie. 5,5% de chômage, 10 000 frontaliers, ce sont quand même deux chiffres qui sont éloquents. Et manifestement, l'économie neuchâteloise ne trouve pas les compétences dans le canton, voire à côté, dont elle a besoin. Et je pense que c'est une bonne idée que de veiller à ce qu'on puisse former les gens dont l'économie a besoin. Naturellement, se réapproprier un savoir-faire, notamment dans l'horlogerie, ça prend un temps fou. Il faut non seulement déjà former les enseignants, mais ensuite former le personnel. Et puis ce personnel, pour acquérir de l'expérience, il lui faut des années. Donc je pense qu'on va dans la bonne direction, mais naturellement, il y a un effet retard qui est relativement long, surtout dans la haute horlogerie, qui fait la fierté du canton.
Nago Ambert, dans le domaine médical, il y a des places. Il y a des places dans le domaine social également qui vous touchent directement. Donc vous êtes complètement concerné en fait par cette réforme.
Oui, je pense que M. Knegi est d'abord resté un économiste avant de devenir un enseignant, et il veut tout faire à coût neutre. Des réformes, ça coûte cher. Et je pense qu'il n'a pas mis les moyens. Moi, je suis favorable aux réformes qui ont été faites, c'est-à-dire qu'on supprime les filières préprofessionnelles, modernes et tout ça, avec des paliers, mais il faut beaucoup d'aide pour y arriver, parce qu'on va laisser des gens sur le chemin. Alors, maintenant, sur l'apprentissage, 12% ou 18% seulement d'entreprises neuchâteloises prennent des apprentis. On a supprimé, c'était 150 francs par apprenti, c'était peut-être rien, il y avait un petit fonds de compensation que les entreprises payaient, on l'a même supprimé. Mais il faudrait l'augmenter et peut-être même pénaliser des entreprises qui ne prennent pas d'apprentis. Si on veut l'apprentissage dual, je suis d'accord, il faut réformer aussi la pensée de l'apprentissage et que ce soit un vrai apprentissage. Je ne pense pas qu'on peut, parce qu'on est exactement dans les idées de l'OCDE. C'est-à-dire 20% de gens bien formés, puis le 80%, ce sera les petites mains qui travailleront pour l'industrie. On sait très bien aujourd'hui que les jeunes vont devoir changer de profession, ou en tout cas de formation. Et je pense que les spécialiser tout de suite, c'est une grave erreur, parce qu'ils n'auront pas les bases pour se retourner. La sensibilité et la flexibilité intellectuelle, pour, si on les met directement dans une filière, et fermer les filières plein temps tout de suite, moi je pense que c'est pas tout à fait correct.
Voilà, mais là on est dans les constats, alors on cherche des solutions.
Oui, on est dans le constat, mais quand j'entends M. Knegi, on a l'impression qu'il est candidat au Conseil d'État et qu'il n'était pas au gouvernement. Moi, je suis bien obligé d'en faire un bilan critique quand même de ce qui s'est passé, parce que comme disait M. Martinez, on ne va pas être tous une belle équipe de copains qui s'entendent bien au gouvernement. Je pense qu'il faut avoir des idées aussi et avoir des positions.
Je vous laisserai répondre tout à l'heure. Il y a Yvan Perrin qui aimerait intervenir sur ce thème.
Oui, je crois qu'effectivement, la question de l'apprentissage est très intéressante. On a considérablement augmenté les contraintes administratives pour les entreprises qui engagent des apprentis. Et petit à petit, ces entreprises se sont découragées. Nous l'avons vécu à la Côte-aux-Fées, nous étions entreprise formatrice et pendant des années, nous avions une apprentie employée de commerce. Et au fur et à mesure de ces contraintes administratives croissantes, on s'est rendu compte qu'il fallait l'apprenti, une personne qui s'occupait de l'apprenti et une troisième personne pour faire le travail. Et finalement, on a dû cesser d'avoir une apprentie. C'est un poste d'apprentissage qui a été perdu pour des contraintes administratives qui, pour la plupart, sont inutiles.
Philippe Guégui, depuis le temps que je suis des sessions du Grand Conseil, j'entends toujours ces problèmes administratifs. Je crois même qu'on avait voté quelque part ou il y a quelque temps la levée de ces mesures administratives, les alléger en tout cas. On ne voit rien venir, il n'y a pas d'amélioration.
Mais sur ce domaine, je suis dans ce domaine tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, les contraintes administratives viennent souvent de la Confédération et pas du canton. Mais par rapport à ce qui a été dit, si vous voulez, je mets les mains en faux. Donc, M. Humbert, quand il dit qu'on n'a pas investi, je crois qu'il faut qu'il regarde les budgets de l'État. Au niveau des investissements dans ce qui s'est passé dans MicroCity, au niveau de la HEAR, l'université, on a au niveau du département environ 60%, ça représente 60% de tous les investissements, donc environ 130 millions qui ont été investis dans ces domaines. Maintenant, en termes de fonctionnement dans l'école obligatoire, je dis à M. Humbert, parce qu'il faut qu'il regarde ce qui s'est vraiment passé, c'est environ 10 millions qui ont été investis au niveau des communes. On a augmenté de 15 périodes la dotation horaire, donc il y a des magnifiques projets qui sont en train de se concrétiser. Et moi-même, je l'ai dit aussi au Parlement, puisque j'ai souhaité qu'il y ait un postulat qui mette aussi à disposition plus de ressources au niveau de l'école obligatoire. Donc, je crois qu'il faut arrêter avec ces IACA, il faut qu'on... j'ai pris certaines mesures. M. Martinez a tout à fait raison, il y a un domaine...
Il en a été victime.
M. Martinez a tout à fait raison, dans le domaine de l'enseignement spécialisé, il y a encore un effort important que l'on doit faire dans le sens de l'intégration avec des différents moyens. Mais M. Martinez peut aussi confirmer qu'au niveau des Perce-Neige, il y a passablement de moyens, peut-être pas assez aujourd'hui, mais qui ont été investis. Et je pense que le dialogue entre le département de l'éducation et les Perce-Neige est un bon dialogue. Et je crois qu'il faut aussi le dire, que les choses se passent bien au niveau de l'enseignement.
Vincent Martinez, alors, oui, on est en train de s'arranger avec Philippe Guégui entre les Perce-Neige et l'Enseignement d'État.
Non, on a déjà eu des discussions, on s'est arrangé sur passablement de choses. Si on parle après du social, on parle pas du monde du handicap adulte, vous verrez, c'est beaucoup plus effrayant.
Je pense qu'on n'aura pas le temps.
Mais je vous dis juste une chose par rapport à la formation. Je ne suis pas que directeur de la Fondation des Perce-Neige et candidat. Je préside aussi l'Organisation du monde du travail santé sociale. On parle beaucoup de l'horlogerie, très bien, l'importance de former. Le social de la santé, c'est la deuxième branche d'emploi du canton de Neuchâtel, c'est 11 000 personnes grosso modo. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on forme aussi. Et puis, là où je vais défendre un petit peu la politique que fait M. Kniegi, c'est quand on est en train de parler de formation, le problème que peut avoir le DEX, c'est que l'autre département qui peut être en lien, le TSAS par exemple, ne soutient pas la formation dans les budgets. Donc quand on dit prenez des apprentis et ainsi de suite, si dans les lois de financement il n'est pas mis que typiquement si on prend un apprenti on va être aidé, ben évidemment ça pose des problèmes. Et puis après quand on voit aussi, je prends l'exemple des crèches, où on n'est pas en train de mettre des conventions collectives de travail, on n'est pas en train de dire qu'on n'aide pas le soutien quand ils forment des apprentis, résultat des courses, on est en train de former des fois des apprentis sans avoir le soutien nécessaire. Et ça c'est important. Et l'ODEX, je dois dire à ce niveau-là, au niveau du service de la formation post-obligatoire, est un peu victime, je dirais, des dégâts collatéraux que peuvent entraîner d'autres départements. D'où l'importance quand les départements et les services, les gens se parlent et travaillent ensemble.
Et M. Humbert, c'est juste véritablement dans le domaine de la santé et du social que là, on doit augmenter le nombre de places d'apprentissage parce que là, il y a véritablement un manque et c'est dans ce domaine que l'on doit travailler.
Le Conseil d'État doit travailler dans ce domaine, mais l'affirmer avec force.
Mais je l'affirme non seulement avec force, mais avec je crois moyen, que c'est... Mais Monsieur Humbert, je crois que c'est... D'abord, il faut penser, quand on parle d'éducation, on pense aux jeunes. On pense aux jeunes, et ces jeunes, ce sont nos enfants. Donc, il faut les intégrer, et aujourd'hui, il n'y a aucun enfant, aucun jeune qui est sans solution, et ça, on y travaille, et on doit augmenter aussi le nombre de places, je répète, de formation dans les domaines de la santé et du social, parce que là, on a beaucoup de jeunes qui souhaitent s'y diriger, et là, il y a un effort qui doit être fait par les institutions elles-mêmes. Mais le DEX a créé, je le dis encore, 200 nouvelles places d'apprentissage dans ces trois dernières années. Je crois que ça n'a jamais été fait jusqu'alors.
Voilà, Vincent Martinez, Nago Humbert, et après, on doit faire une petite pause.
Juste un petit mot concernant les notions des formations en plein temps. On a un exemple qui est concret, c'est celui des assistants socio-éducatifs. Dans le Jura, l'ASE est formée à plein temps. Résultat des courses, il y a beaucoup d'ASE au chômage. Dans le canton de Neuchâtel, c'est formation duale. Il n'y a pas chômage.
Il y a trois fois moins de chômage dans les formations duales que dans les formations à plein temps.
Ça, il faut être attentif à ce genre de phénomène aussi. Hein.
Nago Humbert.
Et j'adore entendre M. Kniegi parler de formation, donc avant de la santé. On vient de perdre 10 médecins assistants en vendant la Providence à Genolier. Je ne pense pas que c'est un bon exemple.
Bon, là, on ouvre un autre débat.
Si vous me cherchez, on va me trouver. Hein.
Je ne vous cherche pas, je vais juste donner la parole pour répondre à Philippe Kniegi. On fait une pause de 3 minutes pour laisser passer une page de publicité. On se retrouve tout à l'heure pour parler sécurité.
RTL, élection.
19h35 sur RTN, l'heure pour nous de retrouver Fabio Payot pour la deuxième partie de ce dernier débat.
Voilà, de retour au Desperado à Neuchâtel pour la deuxième partie de ce débat public consacré à la campagne avant les élections cantonales. On va ouvrir le thème de la sécurité, un des thèmes favoris de l'UDC, Yvan Perrin. Est-ce qu'il y a vraiment un sentiment d'insécurité dans notre canton, n'est pas à Chicago, à Neuchâtel ?
Non, mais ce n'est pas nécessaire de le devenir. Je constate quand même que nous avons un problème de sécurité dans le canton. Déjà, la police nous coûte de plus en plus cher pour des prestations qui ne sont pas en constante amélioration. Et les infractions au code pénal au niveau suisse pour 1000 habitants, en moyenne, sont à 76,9 et nous sommes à 96. Donc manifestement, il y a quand même quelque chose à faire dans notre canton.
Donc vous proposez de réorienter les missions de la police, ça signifie quoi ?
Alors ça signifie peut-être que les policiers devraient être plus orientés à traquer les délinquants qui sont vraiment des criminels plutôt que d'installer des radars au bord des routes. Naturellement, compte tenu de notre situation financière, la sécurité coûte, les radars rapportent. On aura tendance forcément à utiliser plutôt les radars que la sécurité.
Philippe Kniegi, le Conseil d'État a fait, on ne va pas dire son autocritique, mais lors d'une conférence de presse a avoué que le système de la police unique n'était pas une réussite, en tout cas pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ?
Bon, moi, d'abord, il faut aussi rendre hommage au travail, on l'oublie toujours, au travail des policiers. Je pense qu'ils font un travail extrêmement important et moi, je crois en la police de proximité. Je crois aussi qu'il faut être très, très ferme vis-à-vis de ce que j'appelle des incivilités, de l'irrespect, qui commence aussi à ces jeunes parfois. Et quand je dis ferme, il faut prendre des mesures qui s'imposent et pas se gêner à un certain moment, que ce soit un enfant ou un adulte, de lui dire que ça ne va pas. Et si on va vers des comportements qui ne sont pas tolérables, on doit prendre des mesures qui vont jusqu'au renvoi si on doit le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être beaucoup plus ferme vis-à-vis de ces incivilités.
Vincent Martinez, la police de proximité, ça peut être un moyen de prévention. On a tendance à le négliger, en fait.
Alors, clairement, dans le programme du PDSI, il a été mis que nous étions pour la police de proximité, qu'il fallait aussi enlever la part un peu oxygène qu'on a actuellement dans le système, parce que si on prend, bien sûr, toute agression est une agression de trop, je veux dire, mais si on prend le contexte, on n'est pas non plus, effectivement, comme vous le signaliez, peut-être à Chicago ou à New York, et ça, c'est un élément important. Juste une chose, la délinquance des mineurs est en baisse. Donc, il faudrait qu'on soit clair aussi, qu'on arrête de dire que les jeunes, c'est peut-être tous des délinquants, parce qu'ils vont le croire à un moment donné.
Lago Humbert, le thème de la sécurité, c'est un thème qui vous parle. Vous vous sentez en insécurité à Neuchâtel?
Pas du tout, mais ça m'interroge toujours beaucoup parce que l'insécurité, on va toujours avec la stigmatisation de quelqu'un, d'un étranger, d'un jeune, de quelque chose. Et ça m'interroge beaucoup. J'aimerais savoir pourquoi. Par contre, dans les solutions, je suis malheureusement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça veut dire que je peux être quand même collégial sur le fait que les radars, on en est tous victimes. J'ai été aussi victime des radars, mais je pense que les deux peuvent aller ensemble. C'est-à-dire qu'on peut mettre des radars et aussi faire de la police de proximité. Ce que j'ai appris, ce que je comprends, mais moi, vous étiez policier, moi je ne le suis pas. C'est qu'il y a beaucoup de paperasse et que je pense qu'éventuellement, que si les policiers étaient plus proches des gens dans les quartiers ou dans les villes, peut-être que ça amènerait une sécurité aussi pour les citoyens et peut-être un dialogue avec ces personnes qui créeraient la sécurité. Au-delà de ça, il y a une délinquance qu'on n'arrive pas à juguler, de cambriolage ou de choses comme ça. Malheureusement, il y a des lois et puis les gens doivent répondre aux lois, pour moi surtout.
Yvan Perrin, renforcer la sécurité aux frontières, sous-entendu les vilains étrangers et criminels qui viennent chez nous.
Alors, pour le bas du canton, je ne pense pas que ce soit le problème principal, mais dans le haut, effectivement, on se rend compte quand même que la plupart des entreprises horlogères qui ont reçu de la visite, les visiteurs venaient de l'autre côté de la frontière. Et si Schengen est maintenant un grand espace de liberté et de sécurité, force est d'admettre que certaines frontières constituent encore des entraves, même si le travail avec la police neuchâteloise, la police jurassienne, la douane et les organes de police français est excellent. Ça reste quand même un obstacle.
À ce propos, une police neuchâtelo-jurassienne unique, Vincent Martinez, c'est une bonne idée?
Alors oui, bonne idée, si ça permet d'avoir plus de moyens. Mais si c'est juste pour faire plus de paperasse et de réunions, ça ne veut pas le faire non plus.
On doit pouvoir faire des économies, Philippe Guégui.
Le but, si vous voulez, c'est d'être beaucoup plus efficace par rapport à la sécurité. C'est un projet qui va de l'avant. Je pense qu'il va aussi aboutir. Il faudra aussi des décisions des parlements pour aller dans ce sens. Mais je reviens aussi, pas seulement à la notion d'insécurité, mais à la notion de respect ou d'irrespect. Et je pense que, quand on parlait tout à l'heure d'éducation, le métier d'enseignant devient aussi plus difficile parce qu'on a affaire aussi à des jeunes qui montrent de l'irrespect au niveau des écoles. Et là, le travail de l'enseignant devient plus difficile et des mesures doivent être prises, mais aussi des mesures d'éducation de certains parents qui tolèrent certains comportements qui ne doivent pas être tolérés dans notre société. Il faut le dire clairement, ceci.
Voilà, je vous propose de parler santé. Lago Humbert, c'est le dossier de la prochaine législature. Je crois que tout le monde est d'accord. On est d'accord que la perspective de l'hôpital neuchâtelois, la répartition des missions, ça interpelle tout le monde. Personne n'est d'accord, entre le haut et le bas. Le Grand Conseil a enfin définitivement donné les missions entre le haut et le bas. On le dit à chaque législature, depuis bientôt 20 ans, le problème de la santé dans le canton est récurrent. C'est un dossier qui risque d'être à nouveau bloqué. Et c'est le Parti libéral radical qui annonce un référendum. Philippe Guégui, comme président du Conseil d'État, c'est quand même un peu embêtant.
Écoutez, moi je pense que dans la fonction de Conseil d'État, il faut être courageux dans ses décisions. Et puis on entend beaucoup de théories et des gens qui disent qu'il faudrait faire de cette manière ou d'une autre manière. Et je pense que quand on est conseiller d'État ou conseillère d'État, eh bien, il faut savoir prendre des décisions et ne pas être toujours populaire devant la population. C'est ce qui manque parfois à des gens qui nous font des très, très belles théories. Et le dossier hospitalier nécessitera aussi des décisions qui devront être courageuses Et moi, j'appelle alors tous les candidats au Conseil d'État à avoir ce courage politique, parce que pour moi, c'est ça, un bon conseiller d'État, c'est quelqu'un qui a du courage de prendre des décisions qui ne font pas toujours plaisir, et on devra prendre des décisions qui devront aller dans le sens de l'efficience et d'une baisse aussi par la suite des primes d'assurance maladie.
Votre parti, le PLR, est plutôt pour un site unique de soins aigus, et pour vous, Nagoambert, c'est une aberration.
Alors, je n'ai jamais dit que c'était une aberration. Je dis simplement que c'est le PLR qui veut que ce soit en bas. Je suis allé à la tribune du Grand Conseil la semaine passée, j'ai eu peur en voyant ce qui se passait en bas. Effectivement, il y a une espèce de consensus qui se fait. On a l'impression que ça s'apaise, et tout de suite, paf, les députés PLR se lèvent pour dire on fait un référendum et on repart. Et là, on va attiser encore une fois le haut contre le bas contre le haut. Je pense pas que c'est comme ça qu'on fait. Personnellement, je suis prêt à être ministre de la Santé de ce canton. J'ai une expérience de quelques années quand même en santé publique ici et ailleurs, et je pense que malheureusement on ne sait pas de quoi on parle, et c'est ça mon problème, c'est ça, c'est que les gens parlent de soins aigus, je répète ce que j'ai déjà dit, un système de santé commence par le bas et pas par le haut de la pyramide. On commence par la médecine générale, les pédiatres, les gynécologues de base, comme je dis, et sinon on va avoir un désert médical.
Et ça, c'est la première chose. On manque de bras, clairement. On manque de bras, là, clairement.
Mais c'est énorme, énorme. Puis attention, je rappelle toujours le système québécois, c'est plus le médecin généraliste, hop, tout le monde à l'urgence. Deuxièmement, après ça, on fait des corridors, comme je disais, qui partent de la côte aux fées, et on regarde exactement ce dont on a besoin au niveau du soin. Et là, on les offre jusqu'aux soins aigus, qu'on définit ce que c'est un soin aigu, avec la réanimation, les soins intensifs. À partir de là, et ça, je tiens à le dire à la population, la proximité n'égale pas l'expertise. Donc, je crois que les gens sont capables. Et puis, ils le font, d'ailleurs. Les Neuchâtelois disent, non, lui, il n'est pas très bon. Moi, je suis capable d'aller à Genève pour une hanche et tout. Mais tout d'un coup, ils ne sont pas capables de descendre à Neuchâtel ou monter à Chaux-de-Fonds. Et ensuite de ça, on peut faire des sites différenciés, même sur deux sites, mais en offrant toujours une porte de médecine générale, comme je dis. Il y a 50 000 personnes dans le haut, quand même. Et dernière chose, je reviens sur la formation des médecins assistants, qui est très important, parce que la majorité des médecins que je connais, qui se sont installés dans le haut, ont tous passé par un hôpital neuchâtelois avant de s'installer. Et si on ferme cette filière de formation des médecins assistants, il n'y aura personne qui va venir, ni de Berne, ni de Zurich, dans notre canton.
Vincent Martinez, on ne vous a pas entendu beaucoup, le PDC, par rapport à Genolier.
Alors, évidemment, ouais, vous
cette
avez...
Cette structure privée qui ne respecte pas la convention collective Santé 21, voilà. Est-ce qu'il fallait sacrifier 300 emplois pour appliquer la convention collective?
Alors, vous voulez le PDC ou le mien?
Le vôtre.
Le mien, en tant que... D'accord, joyeux candidat.
Vous êtes PDC.
Exactement, aussi. Mais on peut, dans notre parti, avoir des avis différents sans que ça pose problème, ce qui n'est pas sûr partout. Alors ça, c'est à voir autrement. Pour moi, c'est clair. Dès la base, il aurait fallu effectivement que la Providence, on pense à la réunir à HNE. Ça, c'est clair. Ça, c'est le premier raté monumental.
Ça a été raté, il fallait composer avec.
Voilà, ça, c'est un premier raté. Alors, une fois qu'on n'a pas pris cette option, tout s'ouvre devant soi. Par rapport à la convention collective, moi, je suis assez clair. Je défends les conventions collectives pour tous les domaines, donc je ne vais pas commencer à dire qu'il n'en faut pas une dans ce domaine-là. La seule chose qu'il fallait dire, c'est que cette convention collective, et là, j'ai toujours été étonné dans le discours qui a été tenu, j'ai eu le droit à avoir un rapport sur le sujet, elle n'est pas si extraordinaire que ça. On est en train de nous dire que la CCT 21, par rapport aux cantons, on est en train d'écraser, enfin, d'avoir des conditions extraordinaires. Elle est tout à fait dans la norme et dans la moyenne. Et ça, c'est clair. La seule chose qui manque dans cette convention, puisque moi j'ai le plaisir d'être dans une autre convention, c'est celle des établissements spécialisés. C'est le principe d'annualisation qui aurait peut-être pu être utile et qu'il aurait fallu et qu'il faudra revoir. Donc voilà. Moi, ce qui m'inquiète dans l'histoire de la privatisation des soins, c'est qu'on pourrait arriver à des histoires de santé à deux niveaux. Et ça, ça m'inquiète énormément.
Je crois qu'il y a une question dans le public.
Oui, alors bonsoir, je suis Christelle Osner et j'aurais une question à M. Philippe Légui en fait. Donc il y a un postulat qui a été voté au Grand Conseil, à la dernière session du Grand Conseil, qui dit qu'il faut tout faire en fait pour rapatrier les missions de la Providence, les missions publiques au niveau de la HNE, étant donné que vous avez accordé une dérogation à Genolier par rapport à la Convention collective du travail. Qu'en est-il? Vous allez faire comment pour rapatrier ces missions?
Je peux me répondre, M. Payot, c'est bon? Volontiers. Alors, écoutez, d'abord, il faut le dire, Mme Rosner, vous le savez aussi bien que moi, la Providence est une fondation privée. C'est une fondation privée et qui ne souhaitait pas rejoindre HNE. C'est pas le Conseil d'État qui voulait ou qui ne voulait pas. Donc la Providence ne souhaitait pas rejoindre HNE. Et ce que le Conseil d'État a fait, c'est de sauver 350 emplois qui auraient passé à la trappe. Et je pense que ceci, c'est important. Il y a une consultation, et vous le savez, Madame Osner, au niveau de la Providence, 85% des gens se sont prononcés, et 75% se sont surtout prononcés pour la reprise de la Providence par Genolier. Je suis favorable, je le dis, je le répète, je l'ai dit au Grand Conseil, je n'ai qu'un discours qui est exactement le même dans tous les lieux, c'est qu'il y ait une convention collective de travail à tous les niveaux, aussi avec le personnel. Donc nous allons travailler sur cette convention collective pour que Genolier ait aussi une convention collective avec le personnel de la Providence. Et moi j'irai même plus loin, je pense que l'ensemble des acteurs de la santé doivent être liés par une convention collective et ces négociations, nous les aurons, mais les conditions de travail doivent être régulées. J'ai aucun problème de le dire, je l'ai dit au Grand Conseil, je le répète ici en public, mais j'ai défendu aussi, si vous voulez, ces 350 emplois parce qu'ils étaient menacés, hein. Il faut être clair aujourd'hui.
Yvan Perrin, vous applaudissez des deux mains la démarche du Conseil d'État qui a réussi à trouver un compromis satisfaisant, en tout cas pour vous.
Alors, tout d'abord, il faut effectivement relever que 350 emplois ont été sauvés. Dans un canton qui a 5,5% de chômage, ce n'est pas tout à fait anecdotique. Et puis, j'ai l'impression pour l'instant que la solution est plus ou moins satisfaisante. On a des premiers investissements qui sont encourageants. Je pense qu'il est regrettable de faire un procès d'intention à Genolier d'emblée. Attendons de voir. Philippe Nègue l'a dit. Il y a des négociations qui seront mises en œuvre. On verra si elles aboutissent ou non. Mais de déjà jeter l'anathème à Genolier, ça me paraît un peu prématuré.
Lagouambert, au-delà de toute idéologie, le fait que Genolier annonce des investissements, crée des cabinets supplémentaires, on va les appeler comme ça, puisque ce sera des médecins privés, en polyclinique, c'est quand même une bonne nouvelle, ça amène quand même des médecins en plus.
Arrêtons de mentir à la population neuchâteloise. Je sais ce que c'est les cliniques privées. Je veux dire, c'est encore une fois de privatiser les bénéfices et de nationaliser les pertes. C'est toujours la même chose. La Providence va avoir une permanence qui ferme à 18h. Les patients un peu malades passent à Pourtalès. Et après, on va dire, mais ça coûte moins cher dans le privé. Mais quand il faut payer des infirmières et des médecins 24 heures sur 24, c'est normal que ça coûte. Et c'est ça qui m'appelle. On a dit, ça va amener des expertises médicales. Bravo! Le chef de l'orthopédie du HNE vient de passer à Genolier, le monsieur Hubert, qui lui, on peut dire qu'il est honnête, parce qu'il dit ce qu'il veut, il veut faire du fric sur la santé des gens.
Okay, il le dit ouvertement.
Lui, il est honnête, c'est correct, c'est à nous de ne pas accepter ça. Et l'État subventionne cette clinique privée. On peut demander quelques devoirs à cette clinique. Et je sais, et je pense, moi, dans les 2 ou 3 ans, que je ne suis pas sûr que ça va être même pour eux, rentable. Hein. Et encore une fois, il n'y a pas de médecin la nuit assistant, la sécurité des patients n'est pas acquise. C'est ça qu'il faut penser.
Lagouambert, si vous êtes élu, vous prenez le département de la santé par exemple, première mesure, vous mettez l'argent pour agrandir, investir dans les hôpitaux existants, récupérer toutes les missions de la Providence.
La première chose que je fais, c'est que j'abolirai le conseil d'administration de l'hôpital Neuchâtelois parce que je pense qu'on veut qu'il y ait des gens qui dirigent. J'arrêterai d'avoir des consultants tous les 3 mois qui disent tout et son contraire, puis quand on n'est pas d'accord, on prend un autre consultant qui coûte un fric épouvantable. Si on est ministre, on dirige. Et on dirige avec les gens qui sont en place, le directeur de HNE, la commission de santé. Et dans les 3 ans, je fais passer les missions de Genolier dans l'hôpital de Châtelois sur la néphrologie et l'ophtalmologie.
Vincent Martinez.
Oui, j'aimerais juste revenir quand même à votre première question qui était par rapport à la santé. J'ai fait toute mon enfance au Val de Travers, adolescence et début d'âge adulte. Actuellement, pour les urgences, évidemment, les gens doivent prendre l'ambulance. Résultat, on leur fait payer 600 francs. Donc, il faudrait quand même commencer à trouver des solutions, si on veut, des soins, des sites uniques avec des soins aigus, que les gens qui sont le plus éloignés aient le droit aux soins comme les autres. Parce que là, on se met un vrai autogol.
On parlait de police de proximité, c'est les soins de proximité, quelque part.
De base, et après, le coût du transport ne soit quand même pas payé par la personne qui a décidé de vivre au Val de Travers.
Philippe Nègue, beaucoup de critiques, encore une fois, sur la stratégie du Conseil d'État par rapport à la santé, même si le Grand Conseil a validé à sa grande majorité les options stratégiques.
Les soins de proximité, moi, j'y suis extrêmement favorable. Je rappelle aussi à M. Humbert que la Providence est une institution privée, donc ce n'est pas une institution qui est public, et je répète ici qu'il est nécessaire d'avoir des relations, des conventions collectives entre les différents partenaires sociaux. Le Conseil d'État y est favorable, mais qu'on peut faire aussi coexister le public et le privé, et je pense que ça peut se passer d'une manière tout à fait honnête.
Voilà, on arrive tranquillement à la fin de ce débat. Je vous propose des questions un peu impertinentes, j'espère que vous ne vous vexerez pas, pour mettre un peu de couleur à la fin de ce débat. La première, elle s'adresse à Nago Humbert. C'est pas forcément la plus impertinente. Hein. On a l'impression que le POP a fait les fonds de tiroir, en fait, pour trouver une candidature en remplacement de Denis Delarussy, que tout le monde attendait. Alors, le rôle de remplaçant en foot ou le rôle de suppléant en politique, c'est pas trop valorisant, ça.
Je t'ai remplacé quelques fois au FC Cantona il y a quelques années. C'est pas si... Je trouve que ton image est assez difficile et t'étais meilleur que moi au foot, je l'avoue. Par rapport au remplaçant de luxe qu'on m'a dit, c'était plus gentil, c'était un remplaçant de luxe quand même. Et je trouve ça assez extraordinaire. Je suis pas vexé du tout. Je pense pas de faire partie des fonds de tiroir du POP, parce que le POP font de la politique, ils réfléchissent. Ils ont réfléchi d'abord à savoir si ça valait la peine de faire un candidat qui veut aller au Conseil d'État et qui n'est pas juste là pour faire une position de combat et d'amener des idées. Et ils ont pensé que peut-être, ce qui me reprochait d'ailleurs par tout le monde, c'est que j'habite pas toujours ici, on regarde si je suis assez tatoué neuchâtelois ou pas, ça me dérange énormément. Et on dit toujours novice en politique. Tu as commencé par là. C'est extraordinaire, j'ai fait de la politique toute ma vie. J'ai été actif socialement. Je me suis engagé dans la société civile. J'ai fondé une organisation internationale de médecine, quand même, humanitaire. J'ai été sur le terrain. C'est incroyable. J'ai présidé la deuxième rencontre israélo-palestinienne sur la santé. J'étais proche d'Arafat et Shimon Peres. Et on vient me dire que j'ai jamais fait de politique. C'est exceptionnel. Et peut-être que venir d'ailleurs et voir autre chose et d'avoir vu d'autres systèmes de santé et social, ça peut amener peut-être quelque chose dans ce canton qui, je veux dire, n'a pas brillé par son dernier gouvernement.
Merci Nago. Question à Vincent Martinez. Vous êtes un ancien socialiste.
Semblerait, oui.
Très sensible à la cause des défavorisés, mais en même temps, vous dites ne pas être trop favorable à une étatisation exagérée, on va dire. Puis d'un autre côté, vous profitez du robinet de l'État avec votre fondation. Est-ce que le discours ne sonne pas un peu faux?
Alors, vous êtes complètement à côté de la plaque, si j'ose le dire. Si on prend... Désolé, on va parler un peu des Perce-Neige. Si je prends le coût de la Fondation des Perce-Neige au niveau du secteur adulte, on va prendre le secteur adulte, 30 millions. La moitié est payée par le prix de journée, payée par les résidents que nous avons. Quasiment un autre quart revient de ce que nous aurions droit si nous n'avions pas voté malheureusement une RPT qui pose des problèmes au niveau social. Donc il reste un petit bout, si je veux dire, un quart au canton de Neuchâtel. Et là, on est en train d'oublier de toutes les retombées économiques qu'amène une fondation comme la nôtre, puisque finalement, dans les lieux où on est implanté, et je vais reparler du Val de Travers, notre espace Perce-Neige-Fleurier a entraîné quand même l'arrivée de travail pour 70 personnes.
Yvan Perrin, vous préférez le pur malt ou le bourbon?
Et alors le pur malt, sans aucun doute, je dirais même le single malt, pour être clair.
Philippe Gagui, vous avez déclaré dans un quotidien alémanique que vous étiez naïf et candide au début de votre mandat. Et maintenant, vous avez mûri, vous avez acquis de l'expérience. Alors, à passer 50 ans, c'est pas un peu tard, mûrir?
Écoutez, d'abord, j'aimerais juste rendre hommage aussi au travail que fait, on n'est pas du même parti, mais M. Humbert sur Médecins du Monde, parce qu'il fait d'excellent travail, et puis lui dire qu'il y a pas mal de footballeurs ici autour de la table, donc ça me réjouit aussi. Mais c'est vrai que dans le métier, si vous voulez, ça a été dit tout à l'heure, je pense que dans le métier, vous devez prendre des décisions, vous devez avoir un certain courage politique, et il faut assumer aussi les décisions que vous prenez. Pour moi, c'est fondamental d'avoir ces différentes qualités, et puis d'être loyal, de défendre aussi certaines valeurs dans le métier de Conseil d'État, parce que les valeurs, pour moi, elles sont essentielles.
Merci, ce sera le dernier mot. Merci au restaurant Le Desperado de nous avoir accueillis en ces murs. Merci à Walter, à la technique, à Robin en studio, et puis à nos débatteurs, Philippe Guégui, Vincent Martinez, Nago Humbert et Yvan Perrin. Bonne soirée à tous. Élection.